Daiquiri.
L'émission LGBTQ, transpé des bigouines de Reims.
Bon, surtout Gwyn.
TKR.
Daiquiri, sur Radio Primitive.
Yeah, fuck you! You don't fucking know me!
And I'm as free as the wind that's blowing out on this beach.
Daiquiri.
Daiquiri.
What are you all looking at?
TKR. Bonjour.
Bonsoir.
Salut.
Bonjour,
il est 18h.
Il fait jour.
Bah ouais, mais maintenant à 18h, faut dire bonsoir. C'est dans le volume de ton propre casque, Doudou.
Ouais,
ce n'est pas moi.
Okay.
Bienvenue dans Daiquiri, il est 18h sur Radio Primitive, où il est peut-être midi, si vous nous écoutez lors de la très belle rediffusion du week-end. En ce mois de mars, on a plein de trucs à vous dire. On va peut-être expliquer peut-être la thématique d'abord de notre émission du jour, qui, attention, je fais un roulement de tambour.
Waouh, c'est beau.
Non, je te laisse l'annoncer parce que ouais, c'est pas moi qui...
Donc c'est mois de mars, donc forcément c'est mois très féministe. Et du coup, on va rebondir un peu sur la petite manif qui a été organisée le 9 mars à Reims. Et après, pour sa venue pour le Pop Woman Festival, on a pu interviewer Ovidie, donc une grande féministe française, qu'on vous présentera après. J'espère que ça va vous plaire. Alors ça dure pas trop longtemps, mais j'espère que les questions étaient intéressantes vu que c'est moi qui les ai faites et que j'étais un peu stressé. Mais voilà, c'est cool.
Tu m'étonnes, John. Cool. On en parle depuis 2 mois de cette interview. je crois qu'on était tout aussi flippés. Peut-être toi, même si on n'était pas avec toi dans la salle du Pop Woman Festival. C'est chouette ce petit programme, bien sûr, tout ça avec une bonne sauce de musique. On vous a concocté une petite playlist tous les trois.
Et puis là, ouais, la Trinité est présente ce soir.
Oui, ouais, je suis de retour.
Bien, pour nous jouer un très bon tour, justement. Et ça fait plaisir d'être en direct avec vous de ce soir.
Ouais, alors, de même.
On commence en musique, peut-être.
Oui, un petit peu de musique.
Avant de passer aux choses sérieuses. Allez, vas-y, toi de décider, maintenant qu'on t'a fait subir toutes les pressions dans cette émission
du mois de mars.
Maintenant, tu choisis, tu fais ce que tu veux.
Je suis une vraie journaliste. Alors, la petite musique que j'ai trouvée en faisant la playlist justement pour la manif, qui n'a pas été passée, mais c'est pas grave, on fera mieux l'année prochaine. Donc, c'est une chanteuse de rap qui s'appelle Hero Echo, qui fait du son depuis 2013. Alors, elle dit qu'elle a découvert le rap sur le tard, mais en fait, c'est surtout le plaisir des mots qui l'a amenée là-dedans. Elle aime faire des jolies phrases, elle aime faire des... Ouais, non, pas l'autre mot, M-O-T. Donc, elle aime faire des phrases jolies, elle aime faire des punchlines sympas. Et elle a sa chanson géniale qui s'appelle Amazon, et qui, hélas, quand il est sorti en 2021, a eu le droit à un renne de l'extrême droite d'un site de merde qui s'appelle Démocratie Participative, mais qui est un site de facho, malgré son nom un peu bizarre. Qui du coup a commencé à foutre des commentaires merdiques, racistes, sexistes, antisémites sur son clip. Qui, alors, elle dit que c'est un clip qu'elle a fait un peu à l'arrache à la ZAD, mais le clip, il est ouf, il est juste ouf, allez le voir, il est trop bien. Il y a des meufs avec des peintures, avec des arcs.
Des Amazones, quoi.
Des Amazones, quoi. Mais franchement, c'est
des Amazones de la ZAD.
Voilà, Witting, le Witting aurait trop kiffé ce genre de choses. Donc, il y a eu beaucoup d'agressions de la part des FAF. Elle a dû retirer la vidéo pour un petit moment pour essayer de calmer le truc. Sauf que ils sont venus sur Facebook, c'est des trous de bite. Et alors heureusement, le bad buzz fait quand même des trucs positifs. C'est que grâce à ça, on a entendu parler d'elle. Donc il y a Madame Rap qui l'a découvert, Combini, qui est venue défendre aussi ce qu'elle défendait. Et elle a répondu au clip, donc elle a remis très vite Amazon en ligne, avec l'autorisation de toutes les meufs qu'il y avait dans le clip, pour justement éviter qu'il y ait des problèmes, parce qu'on sait très bien que les FAF, ils commencent par des harcèlements sur les réseaux, et après on sait pas où ça peut finir. Et elle a fait une belle réponse avec un autre clip qui s'appelle Imbaisable. Bon, je préfère Amazon, mais elle est
cool
aussi.
Ah, on aurait pu faire un enchaîné. au moins, si vous êtes curieux d'eux, allez aussi voir la suite, du coup.
Et du coup, elle se produit toujours, et franchement, c'est cool, moi j'aime bien. Là, je crois qu'en ce moment, elle tourne avec un mec qui est un autre rappeur, en duo, Et alors même si la plupart de ses chansons, ça parle quand même d'amour, de trucs. C'est pas que des trucs féministes, mais du coup celle-là, elle avait besoin de le faire. Et
non, mais il faut toujours faire des chansons d'amour. Je pense que de toute façon, t'es obligé en tant qu'artiste. Il faut au moins, c'est ton crédit, quoi. Tu vois, faut faire un titre d'amour, un titre de yé et un titre d'amour.
Et un titre qui s'appelle Freaks ou Monster.
Ah ouais, c'est vrai.
C'est la base.
Ouais, c'est pas mal.
Donc on écoute Hero Echo avec Amazon.
Si elle veut bien.
Sans dessus-dessous le confort de leur zone, la refaire à notre sauce. Pareil qu'on leur prend la tête, faire la queue, les sucer dans des secondes zones. Le glas de ce monde klaxonne, aujourd'hui on prend la tête. On mettra sans dessus-dessous le confort de leur zone, la refaire à notre sauce. Pareil qu'on n'est pas des bêtes, si tu erres sur les terres des Amazones, tu fais partie de la faune. Les rois perdent la tête. À la fin de mes concerts, des girls en masse viennent me dire que mon son défonçait, que des gonzesses. Cette exclusivité me déconcerte, me retourne vos serres. Pourquoi y'a que des gomerdes? Est-ce que les mecs se concertent? Sont pas concernés, pourtant ils cernent. Et la zone lumineuse de devant la scène, mon cerveau vocifère. Mais putain, qu'est-ce qu'il faut faire pour voir ma musique leur plaire? Parler de bise, de cannabis, ou simplement me faire pousser la bite? Toutes ces questions m'habitaient, ces questions m'abîmaient. Pendant longtemps ça m'a miné, maintenant c'est terminé. Pourquoi j'aurais besoin de leur adhésion? J'ai déjà celle de mes russes. On se passera de leur permission pour mettre le feu en masse. Aujourd'hui le rap intéressant, il est fait par des meufs. Prends de l'espace, vas-y passe devant, on va faire de la place. Pourquoi j'aurais besoin de leur adhésion? J'ai déjà celle de mes russes. Peu de chance de gagner leur admiration pour autre chose que mes seufs. Si on peut pas faire avec, on fera sans et baisser la cuirasse. On va leur mettre les oreilles en sang, honneur à notre race. Assez parler d'eux, avec eux, par les temps qui courent, mieux vaut taper dans le tac. Parler, on est parti pour abolir les pourparlers, la relève sur les remparts, les pine léopards, griffonner le bar, bander de l'arc, c'est girly. Élevés comme des chiennes en matière d'amitié, il nous reste tout à apprendre. Mordons le maître pour retrouver la meute et le mettre à l'amende. Hystérique et déchaînée, nique le thérapeute. Vive les garces, plus de compassion quand le coup part. Les hommes viennent de Mars et les femmes de l'émeute. Il a souffert, c'est pour ça qu'il te cogne, qu'il se paye un psychologue. C'est offensant quand tu romps le dialogue, qu'il se trouve un pédagogue. Barbie a quitté le catalogue, ils auront beau rire et se moquer, leur repos en sens à gober. Tout ça, sa grosse côté déjà bouqué. Il t'a trahi, ça fait mal, solidarité de mal. Que croyais-tu que tu valais? Un srab, un ami quand il t'appelait. Ma couillasse, ma poteau, mais t'étais qu'une go. Reste à ta place ou menace son ego. On vivra d'amitié et d'eau. Bendona, bendo, tout ce qui coule dans nos gorges et du flow. S'ils en réchappent cette justesse, nos flèches ne sont pas bénignes. Quand les violés se font justice, les juges sont en première ligne. Une femme c'est douce et facile, pourtant je suis pas si pacifiste. Mon geste ajuste sa cible, passe pas dans le champ, t'es passible de figurer sur ma liste. Pareil qu'une femme c'est douce et fragile. Pareil qu'une femme c'est douce et fragile. Pareil qu'une femme c'est douce et fragile. Pareil qu'on leur prend la tête. On mettra sans dessus-dessous le confort de leur zone, la refaire à notre sauce. Pareil qu'on n'est pas des bêtes, si tu erres sur les terres des Amazones, tu fais partie de la faune. Ici les rois perdent la tête. Aujourd'hui j'en place une pour mes Amazones, pour mes jolies mômes, pour mes ous, pour mes gonzes. Pas pour mes amis hommes, pour celles qui chialent dans la louche, pour celles qui déraisonnent. Tenez bon, ensemble on cramera la camisole.
Elle est ouais, en ouais. Langue, mode gangsta là.
Ah ouais.
Ah ouais. Pas mal hein, ce petit titre. Hero Echo Amazon. Comme pas ceux qu'on aime, hein. Enfin pas ceux qu'on aime pas. Les Amazones qu'on aime là.
Ah oui.
C'est vrai.
C'est vrai. Putain, mais ils nous piquent tout quoi.
Capitaine. capitalisme. C'est
en parlant
ça,
de ça, il y a les bazars de Nemesis qui ont recollé sur Reims.
Donc, ouais, si vous voyez des autocollants de Nemesis, sur Reims, on peut décoller. Rappeler ce que c'est quand
des
même.
Des féministes identitaires, donc des fachos féministes qui veulent que les femmes restent à leur place à la cuisine pour s'occuper de leur mari. Donc arracher tout ce qui est ce crew de féministes identitaires. Parce que c'est
elles ne sont pas vraiment féministes.
Hein. Bah, elles ne le sont pas.
Bon, après, moi, je ne suis personne pour juger de qui et quoi, mais en tout cas.
Bah là, on peut dire quand même que.
En tout cas, à partir du moment où tu es féministe contre les autres. Voilà. C'est voilà, mauvais signe, je pense.
Et on défend toutes les femmes.
Alors, la dernière fois, on vous faisait la pub parce qu'on organisait une très chouette manif pour le 8 mars qui n'avait pas du tout lieu le 8 mars.
C'était le 9, le lendemain.
C'était le 9, parce que, wesh.
Parce que le 8, on faisait la grève, alors du coup, le 9, on pouvait marcher, tu vois.
Petit retour sur cette date où, personnellement, j'ai été très médisante. J'ai le matin même...
Médisante, je sais que c'est pas vrai,
médisante. Ouais, et je me suis dit, il va y avoir personne... Pourquoi on fait ça? Éternelle absence militante de Reims. Mais bon sang, pourquoi on s'embête avec toutes ces réunions, tous ces... Et en fait,
c'était trop cool.
Et en fait, il y avait plein de gens. Alors, à la louche...
Moi, je dirais qu'on était plus de 200.
Ouais, c'est ce que
Selon les organisatrices...
C'est nous les organisatrices.
Parce que pour vous dire l'anecdote, mon binôme musical, il m'a dit « Oh, au moins 50 !» J'ai fait « Oh,
quoi
ouais, c'était sympa, on était beaucoup plus que ça quand même !» En tout cas, il y avait de l'ambiance en plus. Et pour une fois, on ne peut pas dire que c'est que les femmes kurdes et les personnes kurdes qui sont venues nous
mettre
rejoindre qui ont mis l'ambiance. Je pense que les chants, ils venaient d'un peu partout et ça fait chaud au cœur. En tout cas, pour moi, ça a bien fonctionné, quoi.
Bah, je crois que ça faisait longtemps que j'avais pas fait une manif à Reims où il y avait des slogans du début jusqu'à la fin. Alors, même si leur parcours a été limité de moitié grâce à la préfecture, on vous embrasse. Mais du coup, c'était quand même ouf d'avoir des chants pendant tout le truc, quoi.
On peut rappeler qui a été à l'organisation de cette manif.
Ouais, alors du coup, c'est une manifestation qui a été organisée par la Coordination Féministe Reims et Alentour, qui est composée de beaucoup d'associations féministes et alliées, de syndicats, de partis politiques. Je vais vous dire qui a pris la parole pendant la manifestation pour vous faire une petite idée de qui était présent. Il y avait du coup les assos féministes de Sciences Po ainsi que leur syndicat étudiant qui s'appelle l'AER. Il y avait les assos féministes rémoises comme La Voix des Hyènes et le Planning Familial 51. Il y avait également les jeunes communistes de la Marne, le Comité Palestine, le Collectif des Femmes Kurdes, l'OST, l'Organisation Solidaire Trans qui vient d'apparaître à Reims.
Le coming out et on se crée le 31 mars sur Reims. Et donc, on vous donnera des news un peu plus précisément. Peut-être qu'on aurait une interview des gens de l'OST ici. Qui sait ?
Peut-être.
Qui sait ?
Une très bonne idée, ça. Et du coup, c'était super chouette. Il y avait une grande intersectionnalité ce jour-là. Et c'est quelque chose qui fait vachement de bien à Reims. En tout cas, moi, ça m'a vachement reboosté de voir qu'on sortait un petit peu du féminisme lambda, entre guillemets, blanc, bourgeois, de base, quoi. Ça fait du bien.
Mmh. Il y avait des jeunes, il y avait des vieilles,
ouais.
Il y avait des handis.
Et du coup, il
n'y
avait pas de playlist. Mais moi, je viens de le découvrir quand vous l'avez dit, parce que du coup, j'étais pas très concentrée pendant la manif.
On a fait une playlist, mais on a eu un petit problème d'organisation au niveau de l'enceinte. Et en fait,
je me rappelle du coup de l'enceinte. Si, voilà. C'est bon.
Eu l'enceinte, et en fait, quand je l'ai eu, le son n'était pas assez fort pour couvrir les slogans, donc je l'ai éteinte.
D'accord.
Voilà.
Bon, la prochaine fois qu'on organise une manif, si vous avez des enceintes chez vous, on veut bien que vous les rameniez. Ramenez votre matos, histoire qu'on puisse faire pulser le son, quoi.
C'est parce qu'on est des féministes anti-procréation, donc on n'aime pas les enceintes.
Oh, oh. Voilà. Ça, c'était les blagues que je pouvais pas couper. voilà. Non, c'était vraiment chouette. C'était vraiment chouette. On a terminé en plein centre-ville.
Ouais. Devant le cinéma, symboliquement, parce que du coup, pour le MeToo cinéma, avec tous les porcs qui sont dans ce milieu.
Ouais.
Et qui s'y portent bien, en plus. Hein. On les salue pas, mais...
Ouais, et pas trop de remue, pas trop de grosses surprises aussi au niveau de l'accueil par des gens dont on a l'habitude de les voir.
Oui, on n'a même pas eu trop de relou.
Voilà, on n'a pas eu trop de faf, trop de relou.
En même temps, je pense qu'ils ne font pas les malins quand on est en groupe et qu'on crie fort, mais non, c'était chouette.
Je pense que nos manifestantes et moi sont aussi assez alertés à ce sujet et qu'il y a des gens qui font un petit peu de veille à Reims ce sujet.
Ouais. D'ailleurs, tous les rendez-vous autour du 8 mars, c'est pas fini.
Oui, vous les aurez dans les agendas.
Ouais, il reste des petits rendez-vous, cinéma, etc., etc., qu'on vous donnera tout à l'heure dans la petite partie agenda, juste à la fin de cette émission.
Et maintenant, on passe dans le dur.
On passe dans le dur, je croyais qu'on se réécoutait une musique avant.
Oui, d'abord une musique.
Bah ouais,
j'avoue, parce que... je mets la charrue
dans
les beaufs.
Si vous connaissez ce personnage public qui est Ovidie, je pense qu'on peut le dire comme ça aujourd'hui, bah restez avec nous parce qu'on a presque une vingtaine de minutes d'interview avec elle à vous passer, réalisée lors du Pop Women Festival. Donc on remercie le festival et on remercie Ovidie d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Et donc on écoutera ça en deux parties tout à l'heure. Avant, on va se passer quand même un petit son. Et je crois que Lou, tu nous as ramené un truc tout doux.
Ouais, c'est une artiste japonaise et américaine qui s'appelle Mitski, que vous connaissez sûrement si vous êtes sur TikTok, parce que le son qu'on va passer, il a vachement tourné sur TikTok. Donc c'est My Love, Mine on Mine. Et elle parle d'amour.
Oui, ben voilà,
on disait tout à l'heure, l'amour, c'est important.
Moi, je croyais qu'il y avait une faute dans le titre quand tu me l'as envoyé, parce que je me disais, il y avait drôlement de My Love, Mine, All Mine. Et je me suis dit, mais c'est fait exprès, c'est pour que ça soit dur à dire.
C'est les jeunes mots. Mmh. Tu vois, heureusement que Lo est là pour nous expliquer comment marche le média des jeunes. Mais...
Génial. Eh ben, on découvre ça tous ensemble sur Radio Primitive. C'était
oui,
beau.
C'est trop mignon.
C'était très beau. My love, mine, all mine. Voilà, Mitski.
De Mitski, ouais.
Oh. Moi, j'aurais dit Matsky, mais c'est mon accent américain.
C'est ça. You know, you know.
C'est Mansky.
C'est un prénom japonais.
Bah oui, bah, tu l'as dit en plus, hein, mais tu sais, moi, je n'ai aucune culture nippone.
Alors, avant de lancer l'interview que
on va peut-être faire des présentations, oui.
On va peut-être présenter Vitzef Ovidie. Donc Ovidie, elle est alors je fais pas dans l'ordre du tout. Elle est quand même doctorante en philosophie parce qu'elle a fini son doctorat en 2020, alors
Big
qu'elle
up à
a
elle.
Commencé ses études à peu près à la même époque que moi. Elle est réalisatrice docu vidéo et sonore. Principalement, vous pouvez l'entendre sur les plateformes Arte. Donc que ce soit sur les documentaires visuels sur la plateforme d'Arte.fr, soit sur les documentaires audio, alors c'est Arte, des fois c'est avec France Culture aussi. Il mmh. Y a les docus LSD qui sont assez chouettes, que vous pouvez retrouver, qu'elle fait avec Tancrède Ramonet, son comparse en podcast. Elle est aussi essayiste, donc elle a écrit plusieurs livres super intéressants, dont le dernier, hélas, La chair est triste, qui est très 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 chouette. Il y a un truc super intéressant, alors là c'est peut-être plus pour le jeune public, mais bon, pas que. C'est des collabs avec la dessinatrice Digli, Alors, je sais pas si c'est Deagle ou Deagly, je crois que c'est Deagly. Qui sont. Alors, il y a eu Libre, qui a été mis en petit animé sur Arte aussi. Donc, les deux, enfin, se regardent bien. Mais c'est un peu un compte rendu, ouais, de MeToo. Je pense que c'est un bon outil de montrer ce qui s'est passé, poser des questions. Et il y a le même après sur le baiser après MeToo qui est aussi intéressant. Il y en a un dernier que je n'ai pas encore eu l'occasion de lire, qui est sorti, je crois, il y a 2 ans. Et elle est connue dans le grand public parce que quand elle était jeune, elle a passé 3 ans dans l'industrie du porno français, donc en tant qu'actrice, mais aussi en tant que réalisatrice. Et justement, déjà en tant que réalisatrice, il y avait déjà de sa part un travail justement pour essayer de faire du porno féministe, comme on dit, avec remettre du rire dans le porno, remettre du coup le plaisir féminin aussi dans l'optique, et ne pas finir par le fameux money shoot, qui est l'éjaculation faciale pour prouver que c'est du sexe. En vrai, pour montrer que ça existe vraiment, on appelle ça le money shoot. Donc, c'était de faire autrement. Et je pense qu'elle arrivait à le faire. Et dernier point sur elle est fan de toutou. Oui, elle adore les chiens. Elle nous a beaucoup parlé pendant l'interview.
Nous spoil pas.
Non, mais c'est important de le dire.
Alors, voilà. On parlait tout à l'heure. On a lu la présentation d'Ovidie sur le site du festival qui l'a accueilli. On les remercie encore de nous avoir donné la possibilité de faire cette petite interview. C'est vrai qu'il n'y avait pas trop mention de son passé en tant qu'actrice et réalisatrice. Mmh. Et du coup, on s'est demandé si c'était un souhait de sa part de plus en parler, de peut-être se concentrer sur ses productions plus actuelles.
C'est surtout qu'elle a effectué, comme on appelle dans le milieu, le rhabillage, c'est-à-dire d'arrêter de faire de la pornographie, mais que, hélas, quand tu décides d'arrêter, les images elles restent, que le truc te suit et que forcément dans le grand public, les gens ils vont que connaître ça et passer sous silence toutes les productions qu'elle va faire, que ça soit sonore, audio ou en livre, quoi.
Alors, est-ce que c'est Ovidie elle-même qui préfère présenter ce qu'elle fait actuellement plutôt qu'on s'attarde effectivement sur ça, ou est-ce que c'est un festival grand public qui décide de peut-être pas prioriser cette information-là pour prioriser plus son actualité
On ne sait pas. En tout cas, nous, on en parle.
Mais nous, on l'a connu comme ça aussi. Enfin, pas forcément dans le porno, mais au tout début de sa carrière. Et ça m'a semblé bizarre de pas le voir.
Et surtout, moi, ce qui me stressait justement pour l'interview, c'était que son premier bouquin, Porno Manifesto, moi, c'était vraiment une méga porte d'entrée dans le féminisme, parce que du coup, c'était la première qui, en français, parlait du porno, du féminisme pro-sexe, et qui du coup faisait un résumé des sex wars, la guerre entre les féministes pro-sexe et anti-sexe aux États-Unis. Et ça m'a permis du coup de découvrir cet univers que j'avais pas accès vu que je parlais pas assez bien anglais, et de le comprendre mieux et de l'intégrer aussi dans mon féminisme. Et je sais que ce premier bouquin, il m'a servi pendant au moins mes 10 premières années de féminisme, et des fois je le relis encore. Donc c'est pour ça que c'était stressant de l'avoir en vrai, et c'était vraiment chouette.
Eh bien,
on y passe, allez, go.
Eh bien voilà, on va découvrir la première partie
de l'interview. Et on rebondit après avec vous.
D'Ovidie, justement, qui répond aux questions de Daikiri sur Radio Primitive.
Sur tes documentaires, du coup, je voulais savoir comment tu choisis les thèmes, vu que même si tu restes un peu sur le même milieu, il y a quand même vachement de disparités dedans.
Je sais pas si c'est le même milieu, mais en tout cas, c'est un peu la même constante. C'est la politisation de l'intime, en fait. Mais quand je dis la politisation de l'intime, c'est pas que politisation de la sexualité, parce que j'ai déjà fait aussi des docs, par exemple, sur les violences obstétricales. Ça aussi, ça fait partie de l'intime. Ou la question des violences sexuelles aussi. Et en général, je me réveille le matin avec l'envie très forte de vivre avec un projet de film pendant plusieurs années, parce que c'est quand même plusieurs années, un projet, même un documentaire, hein, faut pas croire, c'est toujours au minimum 2 ans. Et la nécessité absolue d'en parler, en fait, souvent, c'est un truc, l'envie de partager avec les autres, en disant « Mais si, tu connais pas cette histoire, mais attends, mais je vais te la raconter. » Je sais pas, par exemple, sur le procès du 36, qui était l'histoire d'une femme qui avait porté plainte contre des policiers de la BRI, une touriste canadienne qui les accusait de l'avoir violée dans les locaux du Transisquai des Orfèvres. C'était une histoire que je trouvais tellement dingue, et l'histoire de l'instruction construction surtout de cette histoire, je la trouvais tellement dingue que je me suis dit, mais il faut que j'en parle. Et là, par exemple, le dernier doc que je viens de terminer, qui va être diffusé à partir de fin mars sur Arte, c'est un documentaire sur Valérie Solanas, qui est donc l'autrice du Scum Manifesto, qui est le manifeste le plus radical de toute l'histoire des manifestes féministes, on va dire. Et qui est aussi connue aux États-Unis pour un fait divers, puisque c'est elle qui a tiré sur Andy Warhol.
Et justement, ma deuxième question, c'était justement le fait de choisir elle. Est-ce que c'est pour ressortir le Scum Manifesto de sa boîte, ou c'était juste l'acte en lui-même qui t'a intéressé et que t'as voulu documenter? Donc j'étais un peu impressionné de voir la bande-annonce, parce que je pensais pas qu'il y avait des images d'archives. Parce que ça me paraît vieux, et c'est vrai que du coup j'ai hâte de le voir, parce que ça a l'air trop bien de revivre le moment, en fait.
En fait, c'était un peu ça, c'était l'envie de partager. C'est quoi, tu connais pas toute l'histoire de Valérie Solanas? Parce que l'histoire de Valérie Solanas, on connaît le SCUM. Surtout nous, en France, on connaît le SCUM parce que déjà, l'éditeur, à la base, Maurice Giraudiat, c'était un éditeur français. Ensuite, Simone de Beauvoir l'a ramené en France. Ensuite, il a été lu par Carole Roussopoulos et Delphine Seyrig dans en image. Donc en France, on connaît le texte, mais on ne connaît pas forcément le fait div. Déjà, il y a plein de gens qui connaissent ce que Manifesto sans savoir que Valérie Solanas, elle a tiré sur Warhol, alors qu'aux États-Unis, c'est l'inverse. Elle est connue pour avoir tiré sur Andy Warhol, et après, on dit « Ah tiens, elle avait écrit un manifeste ». Et aujourd'hui, un manifeste qui est lu dans les facs, dans les départements de gender studies, etc. Mais que ça a mis quand même pas mal de temps. Et l'histoire de Valérie Solanas, elle est de son enfance jusqu'à sa mort, elle est tristement fascinante, en fait. C'est une vie de trauma, c'est une vie de trauma, il faut être clair, hein, de l'enfance jusqu'à sa mort à San Francisco, où on l'a découverte 5 jours après sa mort. Elle était toute seule. Donc c'est dans des conditions vraiment déplorables. Mais voilà, je pense que c'est ça, c'est se réveiller le matin en disant « Mais quoi, tu la connais pas, cette histoire ? Mais moi, je vais te raconter cette histoire. » Et en général, bon, c'est des histoires qui sont pas drôles. Un peu comme... j'avais fait un film aussi qui s'appelait... Là où les putains n'existent pas, c'était sur un fait divers, c'était sur un féminicide en Suède, et l'histoire était tellement dingue, parce que finalement l'État suédois n'avait pas protégé cette femme, c'était au contraire, puisqu'elle est morte de 31 coups de couteau dans les locaux des services sociaux suédois, donc à un endroit où on est censé la protéger, et voilà, cette histoire me semblait tellement dingue, pareil, je me suis dit, il faut que je vous partage, en fait, donc c'est plus une envie de partager une histoire que les gens connaissent pas forcément.
Du coup, tu dis que tu te réveilles le matin avec cette idée. Du coup, c'est parce que tu tombes dessus en découvrant la chose, ou dans un fait divers, ou un rebond. Parce que là, genre l'affaire de ce qui se passe en Suède, c'est quand même très très précis. Je me dis comment c'est arrivé jusqu'à toi.
Alors l'affaire de ce qui se passe en Suède, ça remonte à 2013, hein, si je dis pas de bêtises, donc ça commence à dater. Et à l'époque, j'avais entendu parler de ce meurtre à travers le mouvement militant pour les droits des travailleuses du sexe. En fait, j'avais vu qu'il y avait des personnes de Las Vegas jusqu'à la Suède, jusqu'à voilà, des travailleuses du sexe qui posaient avec des pancartes Justice for Jasmine, puisque cette femme s'appelait, son nom de travailleuse du sexe était Jasmine Petite. Et voilà, c'est par ce cercle-là que je l'avais, j'avais appris. Là, Valérie Solanas, bon, ça fait très longtemps que je connais son travail, et voilà, c'est plus de 20 ans ou 25 ans, je sais pas. Mais Valérie Solanas, c'était un autre truc, c'est en fait, je l'ai rêvé. J'ai rêvé que je m'installais, l'histoire est 100% vraie, hein. J'ai rêvé que je m'installais dans une salle de cinéma, que j'étais là, j'étais contente, la salle était vide, j'étais au centre. Et puis, la lumière s'éteint, et sur l'écran, tout à coup, Scum Manifesto. Et moi, je suis là, ah, cool, je vais voir un super film. Et je me suis réveillée. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est le film que j'ai envie de voir, quoi. J'ai trop, trop, trop envie. Et j'étais obsédée par ce truc, c'était il y a plusieurs années, hein, ce rêve-là. Et je me suis dit, mais ce film, il faut le faire, quoi. Moi, j'avais envie de voir. En fait, c'est le film que j'avais envie de voir, quoi.
Ah, en tout cas, c'est parfait. Moi, je sais qu'il y a, dans mon féminisme, il y a deux bouquins qui m'ont marqué, Scum Manifesto. Et pour nos manifestos que tu avais fait, parce que moi, ça m'a permis d'avoir toutes les données sur les sex wars, parce que je lis pas en anglais, et du coup, c'était la première fois que j'avais un résumé des sex wars avec une explication simple, et du coup, ça m'a permis d'entrer dans le féministe pro-sex, et du coup, c'est pour ça que je suis un peu impressionné aujourd'hui de rencontrer. Donc, merci pour cette réponse. Alors, deuxième question. Dans ton dernier essai, La chair est triste, hélas. Encore une fois, alors j'ai l'impression que c'est quand même assez lié dans ton travail, parce que j'ai l'impression de le retrouver assez souvent. On remarque une proposition de repli stratégique dans des sexualités non cis-hétérosexuelles. Et je voulais savoir, du coup, est-ce que tu prêches pas pour une forme de lesbianisme politique réactualisé
Ça pourrait être une forme de lesbianisme politique si j'étais vraiment en couple avec une meuf, tu vois. Là, je pourrais dire, effectivement, je me suis tournée... Là, je suis un peu comme Madeleine Pelletier, tu vois, qui a priori était plutôt lesbienne, il faut être clair, mais qui était plutôt dans une absence totale de sexualité. Moi, ma phase depuis plusieurs années, c'est de m'extraire complètement de tout, en laissant une porte ouverte, justement, au lesbianisme, mais en ayant complètement fermé la porte de l'hétérosexualité, ça c'est sûr. Si je devais y retourner, ce serait peut-être par là, effectivement. Mais je pense que moi, c'est une émancipation, bon, du système hétérosexuel, ça c'est une chose, mais aussi de toutes les injonctions romantiques et tout ça. Je pense que c'est tout ça qui m'a gavée. C'est plus c'est pas que dans la pratique, c'est aussi le... être bombardé d'images qui tournent autour de ça, autour de l'injonction à tomber amoureux, de l'injonction à faire couple. Enfin, je veux dire, n'importe quel film de n'importe quel film au cinéma va tourner autour d'une intrigue érotico-amoureuse, quoi. Même un film catastrophe avec des gens qui meurent, il y aura toujours une intrigue érotico-amoureuse au centre. Mmh. Et moi, ça, j'ai besoin de me débarrasser de tout ça. Mais souvent, quand je dis, je pense que la sexualité, je l'ai arrêtée à un âge où la société estimait que je pouvais encore servir. Et à mon avis, je pense que j'y retournerai quand je serai à un âge où la société estimera que je suis censée arrêter, quoi. Genre, je pense que j'y retournerai, je sais pas, dans 10 ans, un truc comme ça.
Et justement, le terme d'abstinence, qui est quand même un peu dit dans le...
Ah,
non, oui, c'est... Moi, les gens, quand ils m'ont résumé le bouquin, c'est « Ah oui, alors elle parle de son abstinence », et c'est vrai que quand je l'ai lu... Alors, comme tu dis, t'as une relation épisodique avec des personnes lesbiennes ou des mecs trans. Mais du coup, pour moi, c'est pas le schéma d'abstinence. Et après, ça m'a fait réfléchir à se demander si, ce terme de ne pas avoir de sexualité, quelle que soit la raison, est-ce que le terme qu'on va qualifier le plus vite, c'est abstinence ? Et je trouve qu'il a trop de connotations religieuses. Et tu penses pas qu'il y aurait un terme qui pourrait exister pour se définir comme des personnes qui n'ont pas de sexualité, mais qui ne seraient pas des personnes asexuelles, vu que c'est un milieu qu'on parle maintenant un peu plus.
Alors, je suis pas asexuelle, je dirais que je suis... Peut-être il y aurait peut-être un autre terme à trouver pour les gens comme moi, en tout cas, qui serait plutôt hyposexuel, j'ai l'impression. Moi, je suis certainement pas abstinente, parce que quand tu es dans une abstinence, tu t'abstiens de faire quelque chose. Moi, je m'abstiens de rien du tout. Je veux dire, j'ai pas de frustration, j'ai pas de manque. Je me dis pas... je m'empêche pas de faire un truc, quoi. Pour moi, l'abstinence, c'est écraser sa dernière clope ou dire « demain, j'arrête de boire ». C'est ça, l'abstinence. Et moi, je suis pas là-dedans. Je m'abstiens de rien. Et je veux dire, si vraiment je veux y aller, enfin, il n'y a pas le bon Dieu qui va me punir en disant « ah là là, t'es retournée coucher avec des hommes, bah dis donc », où il n'y a pas une pureté militante derrière, dire « oh, dis donc, t'as recouché avec un homme ». Non, non, ça m'est arrivé de réessayer et ça me convainc pas et voilà, quoi.
Dans le livre.
Ouais, j'en parle, effectivement.
Bah oui, il n'y a pas la police végane qui va lui tomber dessus si elle mange un bout de... Ben non, mais c'est vrai, c'est un peu ça dans l'idée dont il était question. C'était Ovidie, au micro de Radio Primitive.
Ah, désolé pour la redite, hein, j'avais oublié que j'en parlais déjà de ce que je vous ai dit juste avant, mais bon.
C'est ouf, ce terme, ce débat sur la sexualité et la pauvreté. On peut dire ça comme ça, de ce mot au final, de ce qui peut englober. Et c'était quoi le terme que j'ai un cerveau.
Le hypo.
L'hyposexuel.
C'est pas une sexualité avec des hypogloutons.
C'est vrai que c'est. Non, mais je ne connaissais déjà absolument pas ce terme-là. Alors je sais pas si ça vous parle. Mais
est-ce qu'il existe vraiment ?
Oui, si, ça existe.
Ça pourrait être un super néologisme.
Mais je sais que dans le bouquin, c'est ce qui m'a marqué. C'est un truc qu'elle dénonce, c'est un peu une sorte de charge mentale sexuelle qu'ont les meufs.
Ouais.
De forcément devoir, c'est de préparer avant, d'être prête à être baisée, donc selon les critères de la société, épilée, maquillée, bien habillée, sexy mais pas trop, parce qu'attention, sinon on va te traiter de pute. Et c'est vrai que son bouquin, juste après l'interview, il y avait un club de lecture dans le cadre du 8 mars avec le planning familial. Et il y a une des anciennes qui a présenté le bouquin d'Ovidie, justement, c'était rigolo. Mais elle a dit un truc qui était un peu triste, je trouve. C'est que autant elle partage souvent des bouquins avec son mari, et elle nous a dit que celui-là, elle n'a pas osé lui proposer de peur de lui faire du mal.
Ah ouais.
Ouais. Et j'avoue que c'est.
Bon, là, c'est peut-être générationnel aussi.
C'était touchant. Mais oui, je pense que du coup, le bouquin, il pose des questions qui sont complexes, c'est vrai, à partager avec le partenaire parce qu'on a peur de lui faire mal. Mais en même temps, c'est des questions, j'ai l'impression, qu'il faut arriver à diffuser. Parce que c'est comme ça qu'on va améliorer, on va dire, l'hétérosexualité. Parce que dans son bouquin, il a quand même un peu cette espérance d'un jour que, bah, que les rapports hétérosexuels ne soient pas merdiques.
C'est un peu agir de l'intérieur, quoi. Tu vas faire de l'entrisme dans l'hétérosexualité, quoi. Tu vois, enfin, c'est ça.
Après, on s'en fout, on est Gwyn, mais.
Alors, moi pas.
Merci, Gwen, de généraliser comme ça.
Mais.
Ouais, t'es pan.
En vrai de vrai, c'est... moi, j'ai trouvé ça aussi intéressant parce que Ovidie, elle a quand même travaillé sur l'éducation. Sa série documentaire sur France Culture, elle se concentre sur l'éducation des enfants à la sexualité et au consentement. Alors honnêtement, j'ai pas écouté l'émission, donc je pourrais pas vous en parler, mais je trouve ça intéressant de parler de l'éducation d'une autre manière, au sein du couple aussi. Et pas forcément en mode « j'apprends des trucs à mon homme ».
Ouais. Mmh.
Non, c'est une discussion à ce sujet, et bon, bah, si elle blesse les hommes, tant pis pour eux, hein, mais le but c'est quand même qu'on ait une discussion et que le couple avance, quoi.
Ouais. Ouais, ouais, ouais.
Les bouquins avec Digli, c'est un peu ça justement. Ça pose, ça peut
c'est
être
un
lu par
tout
le monde.
Et c'est un bel outil, ouais. Enfin, d'enclencher.
Et le fait que ça soit illustré et en plus de façon un peu marrante, enfin le dessin est vraiment cool. Je pense que ça aide vachement. C'est peut-être moins abrupt que juste un essai, surtout pour des personnes qui sont peut-être pas habituées à lire. Même si pareil, les essais d'Ovidie se lisent quand même très vite parce que c'est t'as l'impression qu'elle te raconte sa vie en fait, comme si c'était une pote qui va te dire bon voilà, bah, j'ai arrêté de baiser là, et franchement ça c'est intéressant et en même temps ouais, ça touche à des trucs qui sont je pense méga importants mais que ouais on n'ose peut-être pas encore parler et qu'on faut espérer ça va peut-être être le déclencheur.
Mais est-ce que ça serait, enfin, est-ce que le bouquin il serait pas quand même vachement accessible du fait qu'elle parle aussi de son histoire à elle?
Ben, je pense que c'est ça aussi. Tu témoignes déjà de ton rapport, donc tu te poses pas un regard de jugement déjà. Tu vois, tu pars de ton expérience, ça change tout déjà. Enfin, tu vois, c'est sur ce savoir-là. On se fait une petite pause si vous le voulez bien, et puis après on écoutera la deuxième partie où ça parle de toutou, parce qu'il faut teaser.
Bah, c'est important.
Voilà, sinon, ils resteront pas avec nous sur Radio Primitive. C'est tazique maintenant. Ouais, on va écouter Krenoka. C'est une personne non binaire. Je ne savais pas, on le diffusait cette personne depuis déjà quelques temps sur Radio Primitive, mais je me rappelais plus que c'était une personne non binaire. J'ai reçu cet après-midi son album, son premier album, parce qu'il y avait eu deux mixtapes avant, Earth Capsule. Et Something Else Than Human. Alors ça paraît sur le même label qui l'a suivi jusqu'à maintenant, qui s'appelle Figure Libre Records, et c'est sorti en février, donc je suis bien passée à côté. C'est très expérimental comme pop, mais il y a des trucs qui sont dans son album, il y a quand même des titres qui sont plutôt symétriques quand même. Donc c'est assez comparé à Björk, et je suis plutôt d'accord. Je vous invite à aller écouter, à aller jeter une oreille sur l'intégralité de l'album parce que là, je vous mets le plus accessible en fait. C'est un morceau qui s'appelle Having a Bad Day et on va l'enchaîner parce que sinon, on n'aura pas le temps de reparler d'Ovidie. I'm having a bad day. I'm having a cry day. I don't believe in anything. I don't believe in your shit. I don't wanna try something. I don't wanna drink your thing. Let me have this, let me have this, let me have this bad day. I'm living a sad day. I'm budding this cry day. I wanna dance with sadness. I wanna lick its badness. I don't wanna try something. I don't wanna drink your thing. I don't wanna dance with you. I don't wanna share with you. Ne vous fiez pas à ce petit air, la mélodie plutôt joyeuse, ça s'appelle quand même Having a Bad Day, hein, avoir une mauvaise journée. C'est Krenoka sur Radio Primitive, un extrait de son premier album qui s'appelle Eidolon, que j'ai essayé de lire à l'envers parce que je me suis dit ça doit avoir plus de sens à l'envers, mais visiblement non. Mais bon, c'est... Attends, excuse-moi, j'ai éteint ton micro. Ah, vas-y.
Moi je disais pourquoi tu essayes de faire des choses comme ça.
Bah parce que je me suis dit ça veut rien dire, alors ça veut peut-être dire quelque chose à l'envers, Non. Il est 18h40, et bien voilà, c'est tout à fait l'heure pour repartir écouter Ovidie au Pop Woman Festival qui nous a accordé quelques minutes pour nous parler de ses actualités, mais pas que, parce que Ovidie c'est aussi une grande fan de...
Moi il y a une phrase qui m'a vachement touchée dans le livre, c'est « Même les chiens ne peuvent vivre sans caresses, cela fait partie de leurs besoins les plus élémentaires ». Et je voulais savoir si tu penses que, du coup, est-ce qu'on n'aurait pas du mal à séparer la sensualité de la sexualité ?
Je trouve qu'on a beaucoup de mal à ne pas sexualiser le contact physique, ça c'est clair. Et parfois, moi, il y a des contacts physiques que je serais ravie de recevoir, de partager, s'il n'y avait pas la crainte de la sexualité derrière, en fait. Et ce qui fait que je me rends compte que les contacts physiques les plus fréquents que j'ai, ça va être avec mes amis ES, où on va se faire des hugs, on va se prendre dans les bras. Et c'est compliqué, en fait, de prendre un mec hétéro dans les bras, comme ça, sans qu'il interprète ça tout de suite comme une promesse symbolique d'une sexualité, quoi, en fait. C'est vraiment compliqué. Et ça, je trouve ça dommage, parce que j'ai quelques amis mecs, et j'aimerais bien pouvoir avoir ce partage-là aussi. Mais c'est compliqué. Moi, c'est peut-être le truc qui me manque le plus, c'est le contact physique complètement désexualisé. Et ce contact, il est possible, je veux dire, on l'a au quotidien avec, je sais pas, nos gosses, nos animaux, une partie de nos potes. Enfin, je veux dire, donc, il est possible, ce contact physique non sexualisé. Moi, ça me manque peut-être. C'est peut-être la partie qui me manque le plus.
Et justement, je sais que tes animaux sont très importants dans ta vie. Et je voulais savoir si, dans le futur, il n'y aurait pas un écrit qui pourrait être lié à antispécisme et féminisme.
Absolument.
Et du coup, comment tu fais le lien ?
Alors, absolument. Puisque, figure-toi que le 24 avril, c'est bientôt le 24 avril, j'ai un livre qui sort aux éditions La Thèse, qui s'appelle « Assise debout couchée », et qui est un livre sur le rapport qu'entretiennent... un livre sur les femmes et les chiens, en gros. C'est une lecture féministe de l'histoire canine et comment femmes et chiens, depuis la nuit des temps, ont été relégués aux basses besognes et au foyer aussi, et comment femmes et chiens ont développé un lien spécial. Voilà.
Ça se sentait que ça allait arriver un jour.
Ah, il fallait que ça arrive. Je crois que c'est mon sujet de conversation préféré, c'est parler de chiens. Je pourrais en parler pendant des heures. Et plus sérieusement, c'est pas capillotracté d'avoir une lecture féministe de la chose, mais je pense que le chien est souvent un des derniers remparts face aux violences masculines dans bien des situations, qu'on soit qu'on vive dans la rue ou qu'on soit juste une femme qui va faire un jogging ou par rapport aux violences conjugales. Enfin, je veux dire, voilà, il y a tout. Le chien est souvent le défenseur des femmes.
Ouais. Et puis ce matin, dans la première table ronde qu'il y avait, justement, on parlait un peu de du monde, futur monde parfait, et on voit que la place aussi des animaux, elle est aussi remise en cause pour se dire, on les traiter plus à un mode d'égalité et vivre avec, pas vivre en les exploitant ou en les mangeant accessoirement.
De toute façon, le capitalisme, il repose sur une double exploitation, exploitation des femmes et exploitation des animaux, quoi, de toute façon. Donc déjà, dès la base, c'est intrinsèquement lié, donc il y a tout à repenser, bien sûr.
La nouvelle génération féministe, que peut-être que tu croises et que tu rencontres, est-ce que tu as l'impression qu'elle est plus ouverte sur les questions des travailleuses du sexe par rapport à l'époque où tu as commencé dans le féminisme à porter une parole justement qui était pratiquement invisible en France
Le langage militant a évolué, les revendications ont évolué aussi, en 20-25 ans. C'est sûr qu'il y a 25 ans, quand on parlait des droits des travailleuses du sexe, enfin, je veux dire, en France en tout cas, aux États-Unis c'est autre chose, mais en France, on nous regardait comme si on venait de découvrir un truc qui... comme si on sortait de notre chapeau un truc qui n'existait pas, alors qu'en fait, ça faisait déjà plus de 20 ans qu'aux États-Unis, on militait pour ces questions-là. Et donc je vois une évolution, je vois qu'il y a eu une évolution il y a une dizaine d'années, peut-être une quinzaine d'années autour de ça. Il y a eu, bah déjà, il y a des syndicats, il y a le STRAS qui s'est créé, il s'est passé plein de choses quand même. Alors que moi, quand je commençais à parler du travail du sexe, c'était comme ça que commençaient Porno Manifesto. Porno Manifesto, ça date de 2002, ça a déjà 23 ans. Et ça commence comme ça, je suis une travailleuse du sexe, donc le terme il est employé dès ce moment-là. Et c'est vrai que quand je disais « je suis une travailleuse du sexe », on me regardait avec des yeux ronds, et c'était impossible à entendre du côté des féministes. Aujourd'hui, c'est toujours un sujet super clivant chez les féministes. Mais à l'époque, c'est juste que c'était pas clivant, ça existait pas dans le langage, quoi. Aujourd'hui, on voit quand même dans la presse, on parle de travailleuse du sexe, on parle pas plus... Enfin, c'est comme les termes féministes, il y a des termes comme ça qui ont fini par rentrer comme ça dans le langage, quoi.
Et justement, avec le fond de l'air qui est quand même beaucoup à l'extrême droite en ce moment, est-ce que toi, tu t'envisages un futur compliqué pour cette nouvelle génération de féministes et qui peut aussi impacter peut-être ton travail, toi, en tant que créatrice? Ou est-ce que du coup, tu penses qu'on va arriver à tenir les rangs et à faire avancer les choses positivement?
Je sais pas, moi, je suis pas d'un naturel optimiste, déjà. Et non, je suis évidemment super inquiète. Je suis inquiète pour tout le monde, je suis inquiète pour la société, je suis inquiète d'un point de vue individuel où moi, je travaille quand même principalement pour le service public. Donc, faut être clair, le service public, s'il y a un changement de... Enfin, voilà, si...
Et tu sautes.
Moi, je saute directos, quoi. Et à tous les niveaux, que ce soit en radio, en télé, en documentaire, tout ce qu'on veut, quoi. Donc, non... Évidemment, je suis comme tout le monde très inquiète et comme. Et j'ai pas non plus. C'est marrant parce que je me souviens, il y a 20 ans, on disait oui, si l'extrême droite passe au pouvoir, je change de pays et tout. Et aujourd'hui, je dirais pas ça, tu vois. Enfin, je dirais ben non, on se battra comme on peut, quoi. Voilà. J'ai pas ce truc. Alors qu'avant, c'était. Je pense que ça nous semblait tellement improbable qu'on disait ça, mais oui, mais on va changer de pays. Puis. Non, bah, si ça arrive, bah, on sera là, quoi. On sera là. À chacun à notre niveau, un peu comme on peut. Voilà, je pense que c'est pas le moment de déserter. D'ailleurs, aux États-Unis, quand Trump est passé au pouvoir, il n'y a pas eu une désertion des Américains non plus. Donc on sera là, quoi.
Ouais, il y a eu de la résistance.
C'est normal, il y aura de la résistance, j'imagine. Je pense que c'est comme ça que ça va se passer.
Et une dernière question, bon, je pense qu'ils en parleront tout à l'heure à la rencontre. Mais par rapport à l'œuvre, enfin aux œuvres que tu as fait en collaboration avec Digli, est-ce que toi, il y avait une envie avant de travailler avec elle de rajouter de l'image à tes textes, parce que tu étais à la base surtout dans l'écrit, et est-ce que tu as l'impression que bah, avec les différents albums, si vous aviez un but que vous étiez donné en créant ces livres, est-ce que vous avez réussi à atteindre ce but?
Je pense que Digli et moi, alors je suis plus âgée que Digli, mais on a fait un peu un trajet commun qui a été de « Ouais, c'est génial, le sexe, ça libère et tout », à « Bah non, en fait, dans notre situation, parfois, le sexe, ça nous aliène ». En fait, on a fait ce chemin un peu commun où on est parties toutes les deux d'une position bon, qui était féministe pro-sexe l'une comme l'autre, mais qui était aussi un truc joyeux et tout ça. Et je pense qu'on a pris conscience... l'une comme l'autre, que finalement... On a pris conscience du poids de l'injonction à avoir une sexualité, en fin de compte. Et quand on a travaillé ensemble, pour la première fois, c'était sur Libre. Et je me souviens, on s'est rencontrés... On commence à être un vieux couple, parce qu'on s'est rencontrés en 2013, je crois bien. Et on a vraiment commencé à bosser en 2015, mais on s'est rencontrés en 2013. Et je me souviens, le premier projet, c'était un anti-guide de l'amante parfaite, quoi. Et en fait, on s'est dit, mais non, c'est pas ça notre projet, c'est pas faire ni un guide, ni un anti-guide, c'est prendre toutes les injonctions qui nous pèsent, l'une comme l'autre, et essayer de les déconstruire, quoi. Et pour moi, ça a été mon premier vrai travail de déconstruction.
Et c'était prévu la mise en court-métrage d'animé? Ou est-ce que ça a été proposé
Pas du tout, en fait. Donc, je sais pas, Libre sort en 2017, je crois bien. Et la première saison de la série animée, ça doit être 2021 ou un truc comme ça. Et je me souviens que pour moi, c'était un peu une évidence. Déjà, il y avait tout le travail de recherche graphique qui avait été fait par Digli. Donc, il y avait quand même une grosse partie du taf qui, finalement, de recherche qui avait été fait pour imaginer de l'animation, quoi. Et surtout, en fait, Libre, c'était divisé en chapitres thématiques. Et je me suis dit, mais on a un épisode par chapitre, quoi. C'était très, très simple. Et puis, on avait une quinzaine de chapitres. Donc, je me suis dit, bon, on va en sélectionner 10. On fait une première saison de 10 épisodes de 3 minutes 30. Puis après, on a fait une deuxième saison de 10 épisodes de 3 minutes 30. Mais en fait, ça s'y prêtait. C'est un épisode, une thématique. Bon, ça marche, quoi.
Oui, ça marche très bien. Ben voilà, ben merci à toi.
Eh ben, merci Ovidi de nous avoir accordé quelques minutes pour Radio Primitive, pour Daiquiri.
Et du coup, bah, comme on en parle dans la discussion, à partir de ce soir, enfin d'aujourd'hui exactement, vous pouvez retrouver le documentaire sur Valérie Solanas sur le site de Arte. Et il sera aussi diffusé en prime time sur la télé, c'est les trucs carrés que les gens regardent, c'est pour ceux qui en ont, la semaine prochaine, le 27, je crois, soit à 20h, je ne connais même plus.
Et puis je crois que la série libre et tout ça c'est encore en accès.
Oui, tout ça c'est récupéré en accès libre sur le site, même sur la plateforme. Donc n'hésitez pas à aller voir, même tout le travail de Vidi, franchement, ça vaut le coup.
C'est protéiforme, déjà on ne s'ennuie pas parce qu'elle passe d'un médium à un autre, alors déjà c'est plutôt sympa, et d'un sujet à un autre, et bientôt grâce à toi Gwen, on sait qu'il y a un sujet sur l'antispécisme qui arrive et on est très joie.
Le livre s'appelle Assis debout couché, je crois, un truc comme ça.
Génial.
Mais on refera la pub quand ça sortira.
Évidemment.
Pour faire la transition avant le petit agenda de fin de d'émission, on va vous lire un petit bout pour vous mettre dans l'ambiance du Scum Manifesto de Valérie Solanas.
Mais oui, il faut que vous compreniez quand même de quoi ça parle.
C'est, comme je le dis dans l'interview, c'est un bouquin que j'ai adoré. Alors tout le monde dit « ouais, c'est choquant, c'est horrible », mais j'ai l'impression que quand tu le lis, si tu t'inverses le bouquin, t'as juste la société qu'on a actuellement, et là, ça ne choque personne. Alors, le mâle est un accident biologique. Le gène Y, mâle, n'est qu'un gène X, femelle, incomplet, une série incomplète de chromosomes. En d'autres termes, l'homme est une femme manquée, une fausse couche ambulante, un avorton congénital. Être homme, c'est avoir quelque chose en moins, c'est avoir une sensibilité limitée. La virilité est une déficience organique, et les hommes sont des êtres affectivement infirmes. L'homme est complètement égocentrique, prisonnier de lui-même, incapable de partager ou de s'identifier à d'autres, inapte à l'amour, à l'amitié, à l'affection, à la tendresse. Cellule complètement isolée, incapable d'établir des relations avec qui que ce soit, ses enthousiasmes ne sont pas réfléchis, ils sont toujours animaux, viscéraux, son intelligence ne lui sert qu'à satisfaire ses besoins et ses pulsions. Il ne connaît pas les passions de l'esprit ni les échanges mentaux. Il ne s'intéresse qu'à ses petites sensations physiques. Il n'est qu'un mort vivant, un teint insensible. Et pour ce qu'il y a du plaisir et du bonheur, il ne sait ni en donner ni en recevoir.
Ça, c'est à lire si ton couple hétérosexuel bat déjà un peu de l'aile. Je pense que ça peut aider à donner le bon coup de pied de fin.
C'est un bel outil, je trouve, parce que je vous dis, ça casse, ça fait du bien de casser comme ça, et en même temps si on fait l'inverse, on a vraiment la société dans laquelle on vit.
Bon bouquin misandre, quoi.
Voilà, bah, ouais, ça fait plaisir à mon tatouage.
Reco 2024 s'il vous plaît.
Mais en tout cas j'ai trop hâte de voir le docu, parce qu'en plus sur la bande-annonce qui était diffusée pour le docu, on voit qu'il y a plein d'images d'archives, et ça j'avoue que je m'attendais pas, vu que c'est pas si vieux, à qu'il y ait autant de compléments dessus, et j'ai trop hâte de... Je pense que ce soir, je vais le regarder direct.
On vous met, dans tous les cas, sur le podcast de cette émission, qui sera disponible à partir de demain après-midi, le lien vers, justement, le documentaire, enfin, le lien Arte, c'est ça ?
Ouais, le lien Arte.
Super. Alors, on parle agenda ?
Agenda.
Encore du 8 mars alors.
Ben oui, il nous reste encore des événements jusqu'à la fin du mois, donc il y en a 3. Donc le prochain, c'est samedi 23. Il y a une projection logiquement à 14h dans les locaux des jeunes communistes, donc rue des Poissonniers. Ils nous passent le film Much Love. Donc il y a un film sur des prostituées marocaines, et il y aura un débat derrière sur la prostitution. Et ce ne sera pas un débat contre, enfin on va en discuter, mais le but c'est que dans ce genre de choses quand même, enfin j'y serai,
on les connaît
cas.
Ces débats là hein, mais bon.
je veille parce que je connais la ligne du PC, mais bon, les JC heureusement sont un peu différents sur ces avis.
Big up aux JC.
Voilà, le 30, donc ce sera aussi le samedi qui suit, il y a une journée qui sera organisée par La Voix des Hyènes, donc une journée sur la précarité menstruelle. Donc ce sera de 10h à 17h à la Maison de la Vie associative. Et ce sera découpé en plusieurs petits segments. Il y a un jeu sur la précarité menstruelle. Il y aura une petite présentation de différents outils, des problématiques. Il y aura l'intervention du planning familial et de l'association AIDS. Et dans les temps de l'après-midi, il y aura des questions-réponses avec les personnes présentes, en sachant que normalement vous pourrez aussi ramener des protections périodiques différentes parce qu'il y a une collecte qui est organisée pour être redistribuée justement pour les personnes les plus précaires et qui subissent le problème de la précarité, de ne pas pouvoir se protéger.
Parce que c'est toujours pas gratuit.
Non, pas parce que c'est voté par des vieux gars qui sont pas dans le vrai monde. Voilà. Et le dernier événement, ce sera le 31, donc le lendemain, le dimanche, encore dans le local des JC, et ce sera une rencontre sur le féminisme marxiste, qui risque d'être cool. Alors, je ne suis pas sûr de pouvoir y être, mais du coup, n'hésitez pas à aller voir.
Est-ce qu'il y a Morgan Merteuil ?
Non, même pas.
C'est une référence qu'auront ceux qui connaissent le STRAS, le syndicat des travailleurs du sexe, dont parlait Ovidie, je crois, tout à l'heure. D'ailleurs, elle faisait référence au STRAS, d'une époque du STRAS que vous n'avez peut-être pas connue.
Allez, arrête de faire ta vieille. Du coup, on finit avec une chanson à toi, vu qu'elle est longue.
Bah non. On peut mettre une petite chanson à toi, si tu veux. Okay. Et on peut dire aussi merci, donc on rappelle merci. Encore, merci au Pop Women Festival de nous avoir accordé l'interview avec ce petit temps de rencontre avec Ovidie. Merci surtout à Ovidie d'avoir bien voulu répondre à tes questions.
Merci à Arte de financer Ovidie pour faire des
Oui, et continuer à financer Ovidie. On a besoin de gens comme elle pour nous offrir des possibles. C'est ce qu'on dit à chaque fois, n'est-ce pas ? Le mois prochain dans Daiquiri, on fait comme les séries, in the next episode.
Tu veux on tease ou on tease ?
On peut essayer de teaser, on verra si ça marche.
On va parler de LGBT, mais qui vivent dans la région au-dessus de nous. Voilà.
D'accord, c'est des des mieux que nous, en fait.
Non, ils sont juste au-dessus géographiquement.
D'accord.
C'est ça, c'est pas dans la hiérarchie.
D'accord, donc on sera avec plein de gens.
C'est ça, normalement plein de gens. Et pour finir, donc, je vais vous passer, alors c'est mon coup de cœur, ça fait 2 mois que j'écoute ça en boucle, je saigne ce
titre. À chaque fois elle dit ça, hein. je dis rien. Tous les mois elle dit qu'elle a un coup de cœur qu'elle écoute depuis 2 mois.
Va voir ma playlist YouTube, il n'y a que ça.
Ça tombe, on l'a entendu le mois dernier.
Entre les trucs de Blast, il n'y a que ça. Donc ça s'appelle Graffiti. Comme ça fait graffiti, c'est des t'as vu, je fais le bruit de la bombe. Donc c'est du post-punk pop, ils se définissent comme ça. Et alors j'ai pris 2 citations de Yael parce que je les trouve sympas. Sacha et Niv ont des choses à dire et ils le disent en musique. Né d'une envie de crier au monde que les problématiques queer et féministes ne sont pas des problématiques mais une affirmation simple, Graffiti ose sur une électro radicale, sensible et dansante. Leur musique est une libération des dictats du genre, non par des discours sans fin mais par le plaisir pur de la musique, sans doute une des plus belles découvertes de ce festival. Enfin oui, j'aurais peut-être dû couper là. Et l'autre, c'est doux mélange d'esthétique chaotique et de multiples monsters énergie, œstrogènes et distorsion.
Ah, ça va être génial.
Ce projet porte les valeurs et le vécu de ces deux est hyper stimulé par des trop grandes vitesses de la propagation de l'information et
Là aussi, l'information, elle a trop propagé pour moi.
Déjà, j'arrive à me relire. Hein. En tout cas, ouais, c'est un super duo. Leur chanson est trop bien. Ils ont un panneau de chantier. C'est traverser de l'autre côté, mais ils ont mis 6 traversés de l'autre côté. Enfin, du coup, vous verrez dans le clip, c'est un Easter Egg et c'est trop bien. Donc, Graffiti.
T'avais truc à rajouter, Gwen.
Je voulais juste profiter de la fin pour remercier Gwen pour cette super interview.
Carrément.
Des questions qui ont été écrites uniquement par Gwen et qui étaient très, très pertinentes et très chouettes avec la grande Ovidie.
Voilà. Et surtout qu'il faut rappeler que c'est pas évident d'aller interviewer des gens qu'on admire comme ça.
Les gens, je les ai en studio. Là, c'est la première fois que je le faisais en vrai journaliste. Analyse de terrain.
Voilà, donc c'est cool. Et puis si vous avez pris ça en route, vous pourrez réécouter l'émission samedi.
Et un podcast.
Et le podcast, bien évidemment. Nous, on finit avec Graffiti alors.
Magnificence.
Et salut. Et puis à la suite, après nous, il y a le foutoir en direct.
Ouais.
Allez, tchou.
En théorie, pas d'hierarchie, je reste anarchiste. Mais je suis trop archi fan de toi. Amour pluriel, pas vraiment de loi, pas vraiment de choix. Si je devais en faire un, ce serait toi. Je suis polya, mais quand même plus amoureux de toi. T'es le plus magnifique dans cet apocalypse. Et ton magnifia, que ça qui nous anime. Pour toi, je lancerai des briques sur les flics et les bourgeois. Ni Dieu, ni maître, mais s'il te plaît, soulève-moi. Jamais à genoux devant aucun roi, aucun meneur, sauf si c'est toi. Ni Dieu, ni maître, mais s'il te plaît, soulève-moi.
comme dans le cœur, t'es toujours en tête de toi, je suis toujours en tête qu'avec toi que j'ai point pour masquer. Avec nos crânes, on va tout cramer leur palette. T'es ok, on craint rien face à la fin, les yeux rouges, eux sont tout.